Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme du jour, l'élection présidentielle en France avec le second tour qui se tiendra ce dimanche. On reviendra notamment sur les dernières déclarations et déplacements des candidats toujours en lice, à savoir Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Jean-Noël Ducasse nous fera également un point complet sur l'actualité sportive et puis on ira enfin à la rencontre d'un glacier qui fait sensation à Melbourne dans le cadre de notre série À table, Kitchen Conversations. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal, c'est parti! Les principaux titres à l'actualité de ce mardi 19 avril 2022. En Ukraine, la Russie a entamé hier une offensive de grande ampleur sur le Donbass qui se trouve à l'est du pays. En Australie, deuxième semaine de campagne officielle avant les élections du 21 mai. Anthony Albanese est dans le Queensland et Scott Morrison en Australie occidentale. Et en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont dans la dernière ligne droite avant leur débat télévisé qui sera prévu demain soir, mercredi. En Ukraine, la Russie a donc entamé lundi son offensive sur le Donbass, cette province située à l'est du pays et déjà en proie à des tensions depuis 2014 entre militants pro-russes et nationalistes. Cette mise en marche des troupes russes dans la région a été annoncée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Now we can already state that Russian troops have begun the battle for the Donbass, for which they have been preparing for a long time. A significant part of the entire Russian army is now concentrated on this offensive. No matter how many Russian troops are driven there, we will fight. We will defend ourselves and we will do it every day. We won't give up anything Ukrainian and we don't need anything foreign.
Нам просто не потрібно.
Et parallèlement à cette attaque d'envergure qui mobiliserait au moins 50 000 soldats russes d'après les premières observations effectuées dans la région, la Russie envoie également des missiles à l'ouest du pays et notamment sur la ville de Lviv qui jusqu'à présent avait été relativement épargnée par le conflit. La Russie continue également de bombarder Kharkiv au nord-est du pays, ainsi bien sûr que Mariupol, un port stratégique situé sur la mer Noire et assiégé depuis maintenant un mois. On fait le point avec Muriel Paradon pour RFI.
Lviv, c'est cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine, située près de la frontière polonaise. C'est là que de nombreuses personnes ont trouvé refuge, fuyant les combats plus à l'est. C'est là aussi que plusieurs pays occidentaux ont déplacé temporairement leur ambassade, parce que jusqu'à présent, cette ville était relativement épargnée par les violences. Mais ce lundi matin, plusieurs missiles ont été tirés sur Lviv, faisant des victimes et des dégâts. Des entrepôts et un garage ont été touchés. Les Russes affirment avoir visé des cibles militaires, notamment un dépôt d'armes étrangères près de Lviv. Dans le nord-est du pays, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a encore été frappée par des bombardements ce lundi, comme c'est le cas depuis plusieurs jours. Là aussi, il y aurait des victimes. Mais c'est à Mariupol que les combats sont particulièrement intenses. Ce port stratégique du sud-est du pays, assiégé depuis le début de la guerre, n'est toujours pas tombé aux mains des Russes, selon les Ukrainiens. Le site sidérurgique d'Azovstal, qui s'étend sur 11 km², est l'une des dernières poches de résistance de la ville.
Et de leur côté, les Américains ont indiqué qu'ils allaient accroître leur livraison d'armes en Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a ainsi confirmé l'envoi accéléré d'armes pour un montant estimé à 800 millions de dollars américains, et ce alors qu'il estime que l'Ukraine a besoin plus que jamais d'une aide militaire renforcée pour contrer l'offensive russe.
I mean, we have seen the Russians continue to flow in enablers, capabilities that will help them fight in the Donbass going forward. That's artillery, rotary aviation helicopter support, command and control enablers, and we do believe that they have reinforced the number of battalion tactical groups in the east and the south of Ukraine.
Les États-Unis sont par ailleurs en proie à une polémique d'une toute autre nature. Ces derniers mois, des dizaines de livres scolaires ont été interdits dans des États dirigés par des républicains. Dans leur viseur, des manuels abordant la question des minorités ethniques et ou sexuelles. Dernier exemple en date, la Floride, qui vient d'interdire une cinquantaine de livres de mathématiques accusés de promouvoir, je cite, « la théorie critique de la race ». À Miami, les explications de David Thompson pour RFI.
Au total, 132 manuels scolaires de mathématiques destinés aux primaires ont été proposés par des éditeurs aux écoles de Floride cette année. Avant leur mise en circulation, tous ces ouvrages ont été passés au crible par le département d'éducation de l'État et sur ces 132, 54 n'ont pas passé le test. Ces livres de maths sont bannis des bibliothèques au motif qu'ils sont incompatibles avec les nouveaux critères éducatifs de Floride parce qu'ils contiennent des sujets interdits comme la théorie critique de la race. Ce concept universitaire visant à déconstruire le racisme systémique aux États-Unis est devenu l'un des repoussoirs de l'électorat conservateur. Il n'est pourtant pas enseigné ni au primaire ni au secondaire, mais il a été interdit cet été par le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui l'accuse d'endoctriner et de faire culpabiliser les enfants en leur enseignant l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation et des violences policières. Difficile de comprendre comment des livres de maths de primaire peuvent servir à diffuser une idéologie antiraciste. Les autorités de Floride ne fournissent aucune explication ni aucun exemple pour motiver cette censure, dénoncée par l'opposition démocrate comme une folle hystérie visant à galvaniser la droite. David Thompson, Miami, RFI.
En Australie, après les inondations du mois dernier, le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, vient d'annoncer la création d'une nouvelle structure destinée à reconstruire et à renforcer les villes ravagées par les crues dans la région des Northern Rivers. Vu l'étendue des dégâts, cette structure ad hoc devrait se maintenir pour les 3 à 5 prochaines années, en tout cas aussi longtemps que nécessaire pour permettre aux personnes sinistrées de retrouver leur vie d'avant. C'est ce qu'a promis Dominique Perrottet.
We know that getting people back on their feet, getting people back into homes, rebuilding towns and communities takes time, and this corporation will ensure we build back stronger, better, and in a way that protects people well into the future.
L'Australie, c'est aussi une deuxième semaine officielle de campagne dans le cadre des élections fédérales. Et Anthony Albanese et Scott Morrison sont aujourd'hui en mission séduction dans des territoires où ils sont en difficulté. Le Premier ministre est ainsi en Australie-Occidentale où il existe un risque important pour la coalition de perdre plusieurs sièges de députés. Il a promis dans la matinée qu'il augmenterait le soutien déjà considérable que le gouvernement apporte au secteur minier, avec notamment la création d'un hub dédié à l'hydrogène dans la région de Pilbara, ainsi que la création d'un centre de recherche en partenariat avec l'université Curtin, dédié ce centre aux minerais dits critiques, comme par exemple le cobalt, le lithium et le nickel. Anthony Albanese est, lui, dans le Queensland, où les travaillistes ne détiennent que 6 circonscriptions sur les 30 possibles. Il y a notamment annoncé une augmentation du budget dédié aux victimes de catastrophes naturelles. Il a également démenti qu'il comptait nommer l'ancien Premier ministre Kevin Rudd ambassadeur à Washington, comme cela avait été écrit ce matin dans certains journaux. Pour ce qui est du Parti libéral, c'est toujours la zizanie à propos de Catherine Daves, la candidate désignée par Scott Morrison pour mener campagne dans la circonscription de Warringah à Sydney. Catherine Daves a par le passé tenu des propos polémiques à propos des personnes transgenres qu'elle a par exemple décrit dans des messages sur les réseaux sociaux depuis effacés comme des mutilés chirurgicalement et des personnes stérilisées. Si Scott Morrison lui a renouvelé son soutien, d'autres voix au sein du Parti libéral appellent à le lui retirer. C'est le cas notamment de Matt Kean, trésorier de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Il a réaffirmé aujourd'hui sur ABC qu'il estimait que cette femme était inapte à remplir un rôle d'élu.
My view is that this person should be disendorsed because I do not believe she's fit for office. Describing Wear It Purple Day, a day that celebrates inclusion and diversity, that focuses on reducing bullying and suicide amongst young gay and lesbian kids. She described it as a grooming technique. She invoked the Nazis to attack trans people, comparing one case to the grudge trials of the Third Reich. Absolutely disgraceful. And she also said that half of all male trans people are sex offenders. I mean, that's just outright bigotry.
En France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont dans la dernière ligne droite avant le second tour dimanche prochain, dont l'issue, en raison d'une probable forte abstention cette année, reste encore assez incertaine. Pour ce qui est de la candidate du Front National, elle était en Normandie hier, son dernier déplacement avant le débat qui l'opposera mercredi à la télévision au président sortant. Une dernière sortie donc entachée par des accusations de détournement de fonds européens émises par l'Office de lutte antifraude, des accusations que Marine Le Pen a balayées d'un revers de main.
Alors les coups fourrés de l'Union européenne quelques jours avant le second tour, j'ai une grande habitude de cela et je pense que les Français ne sont absolument pas dupes. Je conteste évidemment absolument ces accusations dont je n'ai pas eu connaissance, ce qui déjà pose un problème en termes d'état de droit, dont on ne m'a fourni aucune preuve, aucun élément, malgré d'ailleurs les demandes que j'ai pu faire dans le cours de la campagne.
Ces révélations n'ont en tout cas pas privé la candidate du Rassemblement National d'un accueil chaleureux sur le marché de Saint-Pierre-sur-Dive, une commune normande où elle se trouvait donc lundi et qui l'avait placée en tête à l'issue du premier tour. On écoute le reportage de Julien Chavanne pour RFI.
Marine, président !
Courage, courage ! On les aura, on les aura ! On les aura !
Ici encore, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Jusqu'au bout, la candidate RN mène une campagne balisée en terrain conquis dans cette France qui vote pour elle.
Merci Marine, bon courage à vous. Merci. On est derrière vous. Merci.
Une façon de se rassurer, de ne prendre aucun risque avant la grande épreuve du débat contre Emmanuel Macron. La candidate a prévu de s'isoler jusqu'à mercredi pour préparer ses angles d'attaque.
Comment faire émerger ce qui apparaît comme prioritaire? Voilà, c'est ça la question que l'on se pose. Ça consiste à ça, préparer un débat. On ne peut pas tout dire, donc il faut décider des sujets ou à l'intérieur des sujets, des éléments qui nous apparaissent structurants pour que l'ensemble des Français puissent comprendre quel est l'objectif de mon projet.
Que fera-t-elle de différent par rapport à son débat raté de 2017? Tout lâche Marine Le Pen qui va bûcher et se reposer les prochaines 48 heures, sauf changement de programme. L'entourage de la candidate n'exclut pas un nouveau déplacement pour ne pas laisser trop de terrain libre à Emmanuel Macron. Julien Chavanne, Saint-Pierre-sur-Dive, RFI.
Et nous reviendrons plus en détail sur cette élection présidentielle française dans quelques minutes, un peu plus tard dans notre émission. Pour terminer ce journal, évoquons également le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui vient d'être frappé par une tragédie personnelle. Le joueur du Manchester United a en effet annoncé sur les réseaux sociaux que son fils était décédé peu de temps après sa naissance. Sa femme, Georgina Rodriguez, avait accouché de jumeaux, une fille et un garçon. Cristiano Ronaldo a précisé que c'est la survie de cette petite fille qui lui donnait la force de garder un peu d'espoir. Et puis pour terminer, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. Grand soleil et 27 degrés prévus à Perth. Il fait très beau également à Sydney avec 26 degrés, mais des averses pourraient apparaître en fin de journée. Idem à Adélaïde où le thermomètre affiche 20 degrés aujourd'hui. Temps pluvieux à Melbourne avec 17 degrés, 28 degrés et du soleil à Brisbane. Et grand soleil également à Darwin où il fera jusqu'à 34 degrés ce mardi.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le Paris-Roubaix. Et cette année, c'est le Néerlandais Van Baarle de l'équipe Ineos qui l'emporte. Reportage Fanny Le Chevestrier pour RFI.
Avec cette moyenne folle de 45,8 km/h au compteur du Néerlandais Dylan Van Baarle, nouveau record à battre. À cela, plusieurs explications. Le vent de trois quarts d'eau, des pavés très secs, mais surtout des coureurs qui ont lancé les attaques dès le début, débridant totalement la course au kilomètre 50, quand plusieurs favoris, dont le Suisse Stephen Küng, se sont retrouvés piégés dans une bordure. Ensuite, la course n'a jamais offert le moindre répit.
Ouais, ça s'est jamais débranché. On était tous au bout du rouleau, on était tellement fatigués. Regarder dans les visages des autres et ils étaient aussi fatigués de moi. Et je crois que tout le monde va bien dormir ce soir.
Avec une pensée pour le grand favori Mathieu Van Der Poel, éreinté par ce rythme et qui ne se classe que 9e. Stephen Küng, lui, s'est battu comme un beau diable pour aller chercher un podium, tout comme le Belge Wout Van Aert, le panache autant chevillé au corps que la poussière et qui finit 2e devant Van Baarle. Était trop fort, porté tout au long de la journée par une équipe Ineos à la tactique parfaite et qui décroche le premier pavé de son histoire. Ineos qui s'est imposé cette année comme la meilleure formation sur les classiques. Côté français, toujours pas de podium, comme depuis 10 ans, mais une belle 6e place pour le nordiste Adrien Petit. Laurent Pichon aux anges, aussi 8e à 35 ans, lui qui ne devait pas être au départ il y a encore une semaine.
Quand je suis venu à la Rocco vendredi, je me suis dit, mais t'es sûr que c'était une bonne idée de venir là, quand j'ai vu la violence, la brutalité d'Arenberg. Et puis voilà, on est arrivé pour la 6e place. Je dois être comme le bon vin, je m'améliore avec l'âge, mais en tout cas c'est que du plaisir. Et voilà, toute la partie où on était tous les trois, j'étais le seul français, tout le public était pour moi. C'est un truc de fou, je me suis cru dans un stade de foot, c'est de la folie.
Cela a moins souri pour les Français que l'on attendait. Christophe Laporte contraint à l'abandon, et notamment Florian Sénéchal qui a chuté et est reparti en plus en recevant de l'urine mélangée à de la bière.
On passe au foot, la Ligue 1 en France, avec dimanche le Classico OM Paris Saint-Germain. Le point avec Cédric de Oliveira et Christophe Diremzian pour RFI.
Alors à l'arrivée, le PSG l'emporte 2-1, mais il faut bien le dire, le match est loin d'avoir tenu toutes ses promesses.
Oui, vous l'avez dit, victoire 2-1. On va dire que l'essentiel est acquis pour les Parisiens qui n'auront pas franchement montré leur meilleur visage. Mais c'est un peu la même chose pour les Marseillais. On va rappeler les buteurs. Neymar à la 12e minute sur un magnifique service de Marco Verratti. Soulignons les beaux gestes, Christophe s'en est un. Le coup d'œil de l'Italien qui a vu le Brésilien s'infiltrer dans la surface. Et la reprise de volée en extension qui est venue lober le gardien marseillais Paulo Lopez. Un petit peu sorti à l'emporte-pièce. Paris qui n'a toujours pas fait preuve de maîtrise, loin de là dans cette rencontre, s'est retrouvé ensuite en difficulté sur un corner mal repoussé, c'est Douillet Çalhanoğlu, le défenseur croate, qui a marqué de près après un cafouillage dans cette surface. Et puis c'est après qu'on a vu quelques séquences intéressantes entre Neymar, Messi et Kylian Mbappé. Il y a eu cette main dans la surface de Valentin Rongier juste avant le repos, remarqué par la vidéo. L'attaquant français Mbappé n'a pas tremblé. Frappe puissante sur pénalty donc du pied droit et 21e réalisation pour le meilleur buteur de la Ligue 1, 2-1. Donc score final, on a cru à un moment que William Saliba avait égalisé sur un coup franc de Dimitri Payet en fin de deuxième période, mais le but a été annulé après une nouvelle utilisation de la vidéo.
Alors victoire parisienne donc, mais les deux meilleures équipes du championnat, Cédric, il faut bien le dire, n'ont jamais vraiment réussi à montrer leur meilleur visage.
Oui, c'était le 102e classique entre Paris et Marseille, mais ce n'était pas le plus plaisant. On a vu un PSG qui a fonctionné par à-coups. Il y a eu quelques bonnes séquences, on l'a dit, en fin de première période, mais honnêtement, c'est vraiment pas au niveau de ce que pouvaient montrer les Parisiens, surtout avec les joueurs qu'ils ont dans l'effectif. Kylian Mbappé n'a pas été aussi tranchant que d'habitude. On a vu des erreurs grossières de la part de Messi, de Neymar, de Verratti, des passes ratées, des dégagements en touche. Et puis, l'OM, de son côté, a eu la possession, mais n'a jamais réussi à emballer la rencontre, peut-être à cause de la fatigue. On rappelle, Christophe, que l'OM a joué un match de Coupe d'Europe face au PAOK Salonique jeudi. Ça a dû peser notamment en fin de rencontre.
À noter la victoire de l'OL contre Bordeaux, 6-1. On écoute la réaction de Karl Toko Ekambi, le Lyonnais.
On était très déçus après le match de jeudi. Forcément, il fallait gagner aujourd'hui pour rester dans la course à l'Europe, c'est ce qu'on a fait. On a marqué beaucoup de buts et je pense qu'on a pris du plaisir, donc c'est une bonne chose. C'est depuis longtemps qu'on a la capacité. Après, il faut le faire. Et là, On a su le faire ce soir, maintenant il va pas falloir s'enflammer parce qu'il en reste 6. Il en reste 6 et c'est, je pense que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Nice, quatrième au classement, a battu Lorient 2-1. En Angleterre, la Cup, la demi-finale, la dernière demi-finale avec Chelsea qui a battu Crystal Palace 2-0 et qui va jouer contre Liverpool en finale. En Espagne, le leader, le Real de Madrid, a battu Séville 3-2. Pierre Chapon, RFI.
Ce Real, ils ont encaissé un but de Rakitic sur coup franc, très mauvais placement du mur, puis de Lamela au terme d'une action collective. Ça a dû vraiment gronder dans le vestiaire à la mi-temps, puisque le Real a totalement survolé la deuxième mi-temps. Ça part à chaque fois d'un centre, Carvajal sur le côté gauche pour un but de Rodrigo à la 50e, Rebelote à la 82e sur la droite, cette fois-ci Carvajal, toujours lui, s'enfonce dans la surface, centre en retrait pour Nacho qui marque à sur cette minute. Et puis dans le temps additionnel, but de Benzema sur une passe en retrait de Rodrigo, 39e but en 39 matchs pour le français. Rodrigo, peut-être le bonhomme de cette rencontre, le brésilien qui est rentré à la mi-temps à la place de Camavinga qui a frôlé le rouge en première période. Ce soir en Espagne, ce qui se disait dans les médias et quand on voit la joie des joueurs après la rencontre, les réactions, notamment Ancelotti, jamais autant démonstratif, c'est un grand pas que fait le Real vers le titre. Les supporters d'ailleurs ont chanté Campeones plusieurs fois après la rencontre. Comme le rappelait la télé espagnole, ils ont besoin de 2 victoires et 1 nul pour l'emporter dans cette Liga.
Et hier, le FC Barcelone, deuxième au classement, battu par Cadix, 16e au classement, score 1-0. En Allemagne, on notera la victoire du Bayern de Munich, premier au classement, contre Arminia Bielefeld, 3-0. Rugby, Coupe d'Europe, fin des matchs, le bilan avec Sofiane Amazian pour RFI.
Une qualification acquise sur le terrain du rival historique, le Stade français, victoire 33-22. Les choses avaient plutôt mal commencé pour les ciels et blancs, menés 15-3 à la surprise générale. Les Racingmen ont pu profiter du carton rouge reçu par l'ailier du Stade français, Naïf Alou, pour tisser leur succès en deuxième période. Mais malgré le contenu brouillon, c'est une deuxième victoire en quart face au rival francilien, la troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Le Racing 92, qui a pour objectif de remporter la Coupe d'Europe, accueillera les Anglais de Sale à domicile dans un match sec.
Alors parmi les affiches de ces quarts de finale, un duel 100% français, tiens, entre La Rochelle et Montpellier.
Ouais, le Stade Rochelais, finaliste malheureux la saison dernière, s'est tranquillement qualifié pour la suite de la compétition. Nouvelle victoire face à l'Union Bordeaux-Bègles 31-23. La Rochelle recevra donc Montpellier qualifié in extremis face aux Anglais de Harlequins. Les leaders du top 14 avaient une avance de 14 points dans la manche retour. Résultat, défaite 33-20. Et même l'ouvreur des Harlequins, Marcus Smith, avait la balle de match au pied s'il avait transformé l'essai inscrit par son équipe. Ça passe donc pour les Héraultais pour un petit point seulement.
À quoi ça tient? Autre qualification dans la douleur, celle de Toulouse, les champions d'Europe en titre.
Et après sa défaite surprise à domicile face à l'Ulster 20-26, la donne était simple pour Toulouse, gagner avec une avance d'au moins 7 points pour espérer entrevoir l'écart. Ce fut chose faite au terme d'une prestation assez brouillonne, victoire 30-23. Le Stade toulousain se rendra sur le terrain du Munster au prochain tour. Le dernier quart de finale opposera les Tigres de Leicester au Leinster, match à suivre entre le 6 et le 8 mai prochain.
Un mot de tennis pour vous dire que la finale des Masters 1000 de Monte Carlo, remportée par le grec Tsitsipas contre Davidovic Fokina, l'espagnol. Un mot de surf, eh bien à Bells Beach, dans le Victoria, c'est le brésilien Felipe Toledo qui l'a emporté. Chez les dames, a noté la victoire de l'australienne Tyler Wright. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Bye.
Les chanteurs Julien Doré et Eddy de Préto, ce sont eux qu'on vient d'entendre en duo sur ce morceau intitulé « L'arme fatale ». 13h29, vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Et comme tous les mardis, on va maintenant se tourner vers la France. Vous le savez, il y a une élection présidentielle, le second tour prévu ce dimanche. On va revenir donc aujourd'hui dans notre Zap France, il a été préparé par Jean-Noël Ducasse, sur eh bien, toutes les déclarations et les déplacements qui ont eu lieu dans cet entre-deux-tours.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Le Zap France, et aujourd'hui on vous propose bien sûr la campagne du deuxième tour de l'élection présidentielle, les élections qui auront lieu dimanche prochain. Les candidats se préparent pour le traditionnel débat de l'entre-deux-tours de demain, mercredi soir. Hier, Marine Le Pen était en Normandie, Emmanuel Macron dans les médias. Florent Guignard et Anne Cantenaire pour RFI, pour ce journal de campagne.
Bonjour Anne Cantenaire.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La première est en Normandie alors que le président sortant fait plusieurs interventions dans les médias.
Mais l'occasion pour le président, par exemple sur France Culture, de souligner son désaccord avec sa rivale sur la question du recours au référendum pour changer la Constitution.
Là où Madame Le Pen, dans son projet, propose une réforme de la Constitution par référendum qui n'est pas conforme à la Constitution. Ce qui est un problème. D'autres le font dans d'autres pays. Ça se fait très bien en Hongrie, ça permet de changer un régime à la main. Mais moi, je le dénonce. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle ne vaut pas changement de régime. L'implicite de la démarche de Mme Le Pen, c'est qu'au fond, une fois élue, elle considère qu'elle est supérieure à la Constitution, puisqu'elle peut ne pas la respecter pour en changer les règles. Ça, c'est une rupture. Et ça, c'est grave.
Emmanuel Macron qui a tenu son grand meeting samedi à Marseille avec un programme repeint en vert, un Premier ministre chargé de la planification écologique et une fête de la nature. Alors cette fête, elle existe déjà, mais l'essentiel, c'est le message.
C'est en changeant de paradigme politique, écologique, économique, pour nos paysages, pour nos vies, que nous pourrons ensemble être celles et ceux qui savaient et qui ont fait, car c'est le rôle de notre génération.
Le président met en avant son âge, 44 ans, c'est rare. Emmanuel Macron qui accuse aussi Marine Le Pen d'être climato-sceptique, démenti de la candidate hier.
Je ne vois pas comment on peut être climato-sceptique quand on discute par exemple avec les vignerons, comme je l'ai fait à de très multiples reprises durant les 31 campagnes, semaines de campagne que j'ai pu faire et qui nous expliquent qu'évidemment, eux-mêmes constatent, bien entendu, dans leur production agricole, dans leur vendange, qu'il y a un changement du climat.
Marine Le Pen sur France 3.
Marine Le Pen qui fait marche arrière sur la question du voile.
Oui, elle a longtemps proposé de l'interdire complètement dans l'espace public, mais depuis quelques jours, sa position est moins tranchée. Son porte-parole, Sébastien Chenu, a donné des précisions hier.
Et notre but n'est pas de lutter, de batailler contre des femmes. Il est de protéger, de libérer celles à qui le voile est imposé par la pression sociale, la pression parfois familiale, la pression communautaire dans certains coins. Et puis de l'autre côté, le Parlement se saisira tout à fait de cette question et apportera les réponses pratiques pour qu'effectivement la grand-mère qui a 70 ans et qui porte son petit voile depuis des années ne soit pas évidemment concernée parce qu'elle n'est pas la cible.
La cible, selon le porte-parole de Marine Le Pen, ce sont les islamistes.
Marine Le Pen cible par ailleurs d'une procédure au Parlement européen pour recouvrer des sommes indûment payées.
Oui, l'institution a saisi l'OLAF, c'est l'Office européen de lutte anti-fraude. Un responsable européen a confirmé hier à l'AFP cette information du site Mediapart. Plus de 617 000 euros en jeu, dont 137 000 concernent directement Marine Le Pen. Sébastien Chenu, son porte-parole toujours, est revenu sur cette question.
Ce sont les boules puantes, évidemment, d'une élection présidentielle. Et surtout, c'est une espèce d'ingérence de l'OLAF. L'OLAF est le bras armé de la Commission européenne. Une espèce d'ingérence permanente de l'OLAF dans les affaires françaises. Nous contestons tout ça. Marine Le Pen les a déjà porté plainte plusieurs fois contre l'OLAF. Nous n'avons jamais eu accès à ce dossier pour des affaires vieilles jusqu'à 10 ans.
Le porte-parole de Marine Le Pen, Sébastien Chenu, sur BFM.
Les prises de position se multiplient. Les deux principaux syndicats ont tranché, ils l'ont fait savoir.
Oui, les leaders de la CGT et de la CFDT ont publié une tribune commune dans la presse hier, c'est inédit. Il est déjà rare qu'ils soient d'accord, alors encore plus qu'ils s'expriment ensemble. Philippe Martinez et Laurent Berger appellent à ne pas confier les clés de la démocratie à Marine Le Pen, mais sans mentionner le nom d'Emmanuel Macron.
Et maintenant, je vous propose ce focus sur le débat de demain, demain 20 avril. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront face à face pour ce traditionnel débat. Le point avec Andréane Mélard et Julien Chavanne pour RFI.
Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cette année encore comme en 2017, il ne reste que dans la bataille pour l'Élysée. Dimanche prochain, les Français vont voter pour le second tour de cette présidentielle et choisiront entre le président sortant, candidat de centre droit, et la présidente du Rassemblement National, parti d'extrême droite. Bonjour Julien Chavanne.
Bonjour.
Et l'un des grands moments de cette campagne de l'entre-deux-tours, ce sera bien sûr le débat entre les deux candidats mercredi. Et après sa prestation ratée en 2017, Marine Le Pen est attendue au tournant cette année.
Exactement, ce face-à-face avec Emmanuel Macron a traumatisé le RN, un cauchemar qui a coûté cher. Marine Le Pen a mis plusieurs mois à s'en remettre, mal préparée, épuisée, agressive. Les images ont torpillé la fin de la campagne de la candidate en 2017. 5 ans plus tard, elle compte bien ne pas reproduire les mêmes erreurs et prendre sa revanche.
Et comment va-t-elle s'y prendre ?
Avec du repos et des révisions, Marine Le Pen a sanctuarisé les 48 heures qui vont précéder le débat. Direction une maison de campagne d'un de ses proches. Au menu de cette retraite, des fiches thématiques et des simulations de débat avec l'un de ses conseillers. Et l'on sait déjà que Marine Le Pen va évidemment tout faire pour montrer un autre visage dans ce remake de 2017. Apaisé, calme, crédible sur son programme, apte à gouverner le pays. En d'autres termes, se montrer présidentielle. Tout l'inverse d'il y a 5 ans. Son équipe veut surtout éviter que le débat ne vire au pugilat, comme ce fut le cas entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour.
Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il se prépare lui aussi ?
On va le préparer avec minutie, glisse un conseiller, avec un angle d'attaque, mettre en lumière, je cite, « les erreurs, les dissimulations, les mensonges de Marine Le Pen ». Et pourquoi pas pousser la candidate RN dans ses limites ? Son calme présidentiel, on n'y croit pas, lâche un proche d'Emmanuel Macron.
Julien, ce débat, on en parle beaucoup. Est-il vraiment crucial ?
Oui, clairement. Hein. En direct, en prime time, sur les deux grandes chaînes nationales, TF1 et France 2, mais aussi sur les chaînes d'info en continu, ce sera le point d'orgue de la présidentielle à 2 jours à peine de la fin de la campagne. D'autant plus crucial que ce sera la seule confrontation directe entre les deux candidats. Emmanuel Macron a refusé tous les débats avant le premier tour. Pour le président sortant, comme pour Marine Le Pen, ce sera l'une des dernières occasions de pouvoir convaincre les indécis et surtout d'attirer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, l'une des clés du second tour.
Voilà pour le Zap France de ce mardi.
J'étais compte à rendre à personne. Je pense que la vie me donne. Y'a André et Lou sur l'inter. Enfin, jamais on abandonne. Aquí va la luz. Hey, yo vivo lo loco. Antes de hablarme, quítate la máscara.
Mascarade, c'est le nom de ce morceau qui rassemble 2 chanteuses, mais 4 nationalités, puisque la première est belge et congolaise, elle s'appelle Luz and the Yakuza, et la deuxième est italienne et dominicaine, et elle s'appelle Yendri. Pour terminer notre émission, on va maintenant laisser la politique de côté, on va se détendre un peu et se mettre en appétit, puisque notre collègue Audrey Bourget a rencontré John Rivera, un glacier qui monte, qui monte, qui monte, et qui est à Melbourne.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on rencontre John Rivera, l'un des chefs derrière Cariton Sorbetes, un glacier de Melbourne. Là-bas, vous ne trouverez pas de simples glaces au chocolat ou à la vanille, mais plutôt des saveurs des Philippines comme l'ubé et le leche flan. Quand les chefs John Rivera et Min Duong ont lancé Cariton Sorbetes durant le second confinement de 2020 à Melbourne, c'était en partie pour se tenir occupés et en partie pour pouvoir sortir de la maison. Mais leur gelato au saveur des Philippines a eu tellement de succès qu'au début de 2022, ils ont laissé tomber la livraison à domicile et ont ouvert leur premier comptoir à Footscray. John Rivera nous explique pourquoi ils ont choisi ce quartier.
So Min grew up in Sunshine. I grew up in Hoppers Crossing, tiny area. And Footscray was always the place where you get your Asian vegetables. And I guess back then, when we were both growing up, Footscray had a bad reputation. You know, you don't go there past a certain time of night. But now it's really starting to become a really cool and hip place. You know, our generation's kind of taking over and creating a much better just place to live and place to work. We're super connected to Footscray as well because we used to play futsal there. We used to eat, you know, we used to eat pho there every morning. The West has always had a bit of a reputation that we're just a working class. We are destined to work in factories, just to be manual labor, and, you know, just kind of work a 9-to-5 and that's it, kind of like blue collar stuff. And that's completely changed. I think there's a lot of great young professionals, great young creatives, really talented people in the West that's making it really interesting. You know, what we love about Footscray is raw. It's rough around the edges. There's no hiding behind pretense or there's no hiding behind like niceties. You know, we're from the West. We're a bit rough around the edges. We want to do it for our people.
Les deux chefs proposent une douzaine de saveurs de glace et gelati en rotation, en plus de nouveaux spéciaux à chaque semaine.
There's four flavors that we know we can't take off or we will run out of business. That's the ube, the coconut pandan, the mango float, and the cheese, the queso. I think those four will stay on forever, or else we'll have people picketing outside the door, asking us, you know, why. But for everything else, you know, it kind of just comes down to maybe we just get bored of a flavor or like, for example, like in the autumn or like right now, like the sour sop is getting really, really good. We might bring the sour sop gelato back for, you know, the season.
Leur saveur signature est l'ube alaya, un gelato fait avec l'ube, ce légume racine mauve éclatant. À travers le gelato, on retrouve de la confiture d'ube, des mûres confites et du lait de coco caramélisé.
We have people walking into the shop asking for 5 liters at a time. Now we're definitely known for the purple stuff. And, you know, like non-Filipinos will come in or like Australians would come in and be like, I want the purple one. Without actually knowing what it is, but they'll have it. Which is amazing. It's a great icebreaker.
Rivera et Duong préfèrent offrir un nombre limité de saveurs pour s'assurer que leurs créations soient les plus fraîches possibles.
We believe that freshly churned gelato is some of the best, one of the best, or freshly churned ice cream is one of the best experiences you can have in terms of dessert. So for us, having 32 flavors at one time just doesn't make sense. Like, you know, you don't know when that vanilla was made. We started with our all-star lineup, I guess, with our most popular flavors from lockdown. And then as we go along, we'll kind of bring in a few new things and just keep things interesting.
Toutes les glaces et gelatés de Cariton Sorbetes sont faits avec les produits laitiers renommés de Gippsland Jersey.
A, it's a really great product. We were very surprised when we made our first batch, how much more creamier and richer it was. It comes down to great milk. But all I really value about them is, you know, we pay a little bit, to be honest with you, we pay a bit more per liter with them. But what I really appreciate of what they do is that A, they're local, and B, they take care of the farmers.
Si la saveur ube alaya est la plus populaire, les deux chefs ont leur propre favorite.
It's hard to pick, because it's like picking your favorite child. But if there was a favorite child, I would probably say that the mango float is my favorite. For me, it's got everything that I look for in an ice cream. It's more of like a dessert, I guess. You know, you have your creamy milk gelato with your really light and refreshing mango sorbet. And then it's got, you know, this jammy texture from the dried mango jam and the crunchy, salty, savory element from the biscuits. Now, when you have all of that in your mouth, it feels so complete. I also love the fruit shake too. I think it's completely underrated. It's amazingly light. It's refreshing, but it's satisfying at the same time. And it's great to almost have one of those richer gelatos and those lighter sorbets all together, you know, together in what in one cup.
Depuis l'ouverture du comptoir, les saveurs des Philippines sont toujours mises de l'avant, mais Rivera et Duong explorent également d'autres saveurs d'Asie et du reste du monde.
We couldn't pigeonhole ourselves moving forward into just one, like we couldn't just be like the ones that do the Filipino flavors. And I guess that also comes down to mine and Min's ambition. You know, we have a lot, you know, we have a lot of accumulated skill and creativity. And I guess quirkiness, like one of the things that we want to put on next is like chicken and waffles. Well, I want to. Min kind of looked at me like, what? Are you serious? We'll always fall back to us being Filipino inspired. Essentially now what we're looking at is like, let's show the world what a couple of guys from that grew up in the western suburbs can do.
Le premier comptoir remporte un grand succès depuis son ouverture en janvier dernier. Et John Rivera et Min Duong commencent déjà à penser à de prochains comptoirs à Melbourne et Sydney.
We've almost pinpointed at the moment right now either Box Hill, Doncaster or Glen Waverley as our next location, you know, somewhere in the east. Once again with a predominantly Asian demographic within the area. I think that'll be perfect for Melbourne, one in the west, one in the east, to service those two sides of the city. But we have, you know, big ambitions to also hopefully take the business to Sydney. Parramatta's booming right now. And once again, there's a lot of young Asians there who love food, who love all these experiences. And, you know, that's one of the challenges that's on our long-term plan.
Mais pour le moment, vous pouvez retrouver Carrington Sorbetes au 50 Leeds Street à Footscray. Ils sont ouverts du mercredi au dimanche.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver jeudi prochain à 13h pour une nouvelle émission en direct. Entre-temps, vous pouvez écouter toutes nos émissions, nos interviews, nos reportages en podcast sur votre appli audio préférée. Et pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne SBS French. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés comme d'habitude et puis je vous souhaite également un excellent après-midi. Je vous dis à très bientôt.
Allô tempo piano.
Va piano va lontano.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.